France Inter.
Et c'est l'heure du journal avec Flore Catala. Bonjour Flore Catala.
Bonjour à tous. Le feu perd en intensité, mais pas le combat pour le maîtriser. Dans l'Aude, les pompiers espèrent fixer aujourd'hui l'incendie meurtrier qui ravage depuis plus de deux jours le secteur. On fait le point sur la situation dans un instant et sur le quotidien des habitants et vacanciers brutalement assombris par les volutes de fumée. Des nouvelles du maire violemment agressé dans sa commune en Isère hier. Il va mieux, toujours à l'hôpital, mais plus dans un état grave. Son agresseur est toujours en fuite et recherché. Le Conseil constitutionnel sous la pression de l'opinion concernant la loi Duplomb. Conclusion très attendu des sages sur le texte aujourd'hui. Peut-être un caillou de plus dans la sandale du Premier ministre qui décidément passe un été très agité. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se dessine pour ces prochains jours, ça se précise, mais ça se fera sans Volodymyr Zelensky. Dans ce journal également, l'inquiétude des cavistes américains face aux surtaxes douanières, notamment sur les vins français. Et puis le retour sur la vague Teahupo à Tahiti du champion olympique de surf Kaoli Vast.
France Inter.
L'incendie meurtrier qui dévore depuis deux jours les chemins, collines et végétations de l'Aude montrerait-il pour la première fois des signes de faiblesse? La progression des flammes ralentit alors qu'elles ont déjà calciné plus de 16 000 hectares et que tout le secteur reste baigné dans un épais nuage de fumée. Les pompiers disent vouloir fixer le feu dans la journée. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Saint-Laurent de la Cabrerisse pour Inter. Est-ce qu'on peut dire que là où vous êtes, Erwan, la situation s'améliore?
Oui, bah justement, on voit un peu moins de panache de fumée cet après-midi. D'ailleurs, cette nuit a été plus rassurante que les précédentes puisque le taux d'humidité a augmenté et que surtout, le vent a largement faibli, même si peut-être que vous l'entendez, mais il souffle un peu de nouveau. Donc prudence, me disait un pompier.
Les flammes, la fumée, l'agitation, Erwan, qui bouleverse habitants et touristes sur place. Vous les avez rencontrés, notamment les enfants. Comment vivent-ils ces derniers événements ?
Et bien justement à Saint-Laurent, lieu où se coordonnent les secours, et bien tout ça trouble quand même pas mal les enfants. Nolan, 11 ans par exemple, est en vacances chez sa grand-mère.
Parce qu'il y a des pompiers qui viennent à droite, à gauche, avec les hélicos qui bougent partout, ça fait du bruit, c'est désagréable. Au début, j'avais eu peur, mais pas trop.
Sa petite sœur Mila, elle n'a que 7 ans, elle découvre ce paysage calciné.
Les montagnes tout grises, c'est pas beau. Moi, je préfère avec les couleurs quand il n'y avait pas le feu et c'était trop beau. Ça a peut-être brûlé des maisons, des gens, des animaux dans la forêt et ça fait peur.
Alors leur grand-mère Laurence essaie de leur expliquer, d'occulter même parfois certains événements, comme le risque mortel d'un incident par exemple.
C'est difficile de parler de ça à un enfant, parce que déjà, je pense que la perte de quelqu'un, ça risque de un peu les traumatiser. Alors je pense que pour l'instant, je les préserve un peu de ça.
Et dès qu'ils le peuvent, les pompiers aussi tentent de rassurer les jeunes enfants avec la stratégie du sourire, me disait l'un d'entre eux.
Erwan Chassin, en direct de Saint-Laurent de la Cabrerisse pour Inter et la préfecture qui indique que les trois personnes signalées absentes par leurs proches ont été retrouvées. La chaleur qui s'intensifie dans le sud de la France risque de ne rien arranger. Les températures grimpent, si bien que Météo France place quatre départements en vigilance orange canicule pour demain. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône. Au lendemain de sa violente agression dans sa commune, le maire de Villeneuve-de-Marc, grièvement blessé, est hors de danger. Gilles Dussault n'est plus dans un état grave, indique son adjoint. Hier, il a été attaqué à l'arme blanche alors qu'il se trouvait avec son fils. Un suspect est toujours recherché. Et dans le petit village isérois, les habitants sont sous le choc, Théo Hetch.
Dans ce village, tout le monde se connaît et personne n'explique cette agression, cette violence, dont on voit les traces encore en contrebas de la maison du maire. Des traces de pneus, des débris de phares de voiture. Les habitants n'y croient toujours pas.
Ça fait bizarre parce que, voilà, Villeneuve-de-Marc, c'est un tout petit village. Et de voir que ça arrive ici, en fait, au fin fond de l'Isère, ça fait bizarre. C'est triste aussi, quoi.
C'est idiot. La personne va gâcher sa vie, Et a failli gâcher la vie de monsieur le maire, de Gilles. Je trouve ça lamentable, quoi.
Des habitants stupéfaits, mais pas vraiment étonnés, en réalité. Le suspect est un habitant du village d'une soixantaine d'années, confirme le parquet. Il habite la commune depuis près de 10 ans. Sa maison est fermée par des scellés. Le premier adjoint, Philippe Poisat, confirme qu'il existe un conflit entre lui et le maire. plusieurs habitants évoquent une question d'urbanisme. L'homme est toujours recherché, des camionnettes de gendarmerie sillonnent le village et la campagne alentour. Nourdine possède un abri de jardin à quelques kilomètres.
Mais il voulait savoir si je connaissais la personne en question. Ils m'ont montré une photo pour voir si je connaissais la personne.
Et vous le connaissiez pas ?
Non, je le connais pas du tout, je vois pas du tout qui c'est. J'ai jamais vu ça, comme ça, comme il tourne depuis ce matin. Il faut bien l'arrêter, ce gars.
Tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour le retrouver, assure le parquet de Vienne.
Théo Hetch, ici Isère, ex-France Bleu pour France Inter. Le Conseil constitutionnel attendu au tournant sur la loi Duplomb. Il doit se prononcer aujourd'hui sur ce texte et sur la réintroduction de l'acétamipride qui fracture l'opinion publique. D'un côté, plus de 2 millions de signatures pour la pétition opposée au texte et de l'autre, la détresse des agriculteurs qui comptent sur ce produit pour survivre, notamment les betteraviers. Guillaume Willens, c'est leur porte-parole au sein de la FNSEA.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est le retour de l'acétamipride pour protéger nos betteraves contre le virus de la jaunisse. C'est quand même une loi qui a été votée. La pétition, libre à chacun de signer cette pétition. J'invite tous les signataires d'aller voir des agriculteurs qui sont concernés par l'arrêt de cette molécule et qui souhaitent le retour. Ça fait depuis 2016 qu'on cherche toutes les solutions possibles et imaginables pour lutter contre le puceron vecteur de la jaunisse. On le voit encore cette année, en cas de force d'attaque, c'est très très compliqué à gérer.
Et parmi les voix qui s'opposent au contraire au texte, il y a celle de l'Ordre des médecins qui a pris position contre la loi Duplomb. Jean-Marcel Mourgue est le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Nous avons de sérieuses préoccupations quant à la nocivité de ce produit, une toxicité générale, une neurotoxicité sur le développement, suspectée comme perturbateur endocrinien, etc., etc. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des doutes sérieux. D'autre part, donc, la prévention vis-à-vis de l'exposition de substances tout à fait suspectes de nocivité, oui, il faut s'y attaquer.
Et les conclusions tant attendues du Conseil constitutionnel seront rendues à 18h. La loi Duplomb et son issue s'ajoutent donc à la longue liste des sujets épineux qui rythment l'été du Premier ministre. Pas de répit estival pour François Bayrou. Le chef du gouvernement multiplie les déplacements. Il est aujourd'hui en Charente-Maritime à Rochefort pour visiter le Conservatoire du Littoral. Déplacement que vous suivez pour Inter, Timur Özturk, bonjour.
Bonjour Flore, bonjour à tous.
Le Premier ministre qui est loin de s'ennuyer cet été, Timur.
Oui, François Bayrou est arrivé il y a quelques minutes ici à Rochefort sous les yeux de quelques vacanciers étonnés de le croiser. Mais pour le Premier ministre, ce début de mois d'août ne ressemble en rien à un mois de repos. Avec les plus de 2 millions de signatures contre la loi Duplomb, texte soutenu par le gouvernement, cette décision du Conseil constitutionnel attendue ce soir, vous en parliez, à l'heure où le Premier ministre sera sans doute sur le trajet du retour après ce déplacement en Charente-Maritime pour défendre l'utilité du Conservatoire du Littoral, agence de l'État visé comme d'autres par les critiques de la droite et de l'extrême droite qui dénoncent les coûts, les normes écologiques. Hier, François Bayrou était dans l'Aude, sur le front des incendies. Pas de répit, hier soir, Emmanuel Macron lui adresse une lettre ouverte pour durcir la position de la France face à l'Algérie. Pour couronner le tout, l'affaire Betarame le poursuit encore quand une femme l'interpelle à l'instant.
Monsieur Bayrou, vous n'êtes pas bien pris ici. Vous avez des comptes à rendre à Betarame et à tous les enfants qui se sont fait violer.
Avant de se faire arrêter par la sécurité du Premier ministre.
Timur Özturk en direct de Rochefort avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques.
France Inter, le journal de 13h, Flore Catala.
13h08 sur Inter, alors que leur relation s'était nettement refroidie. Les présidents russes et américains vont bientôt se revoir et pourquoi pas se serrer la main. Une rencontre Trump-Poutine est prévue dans les prochains jours, annonce du Kremlin ce matin. Rencontre sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un sommet seulement bilatéral donc, dont les préparatifs ont déjà commencé, Jean-Didier Revoin.
C'est au terme de sa cinquième visite à Moscou que Steve Witkoff est parvenu à ficeler un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, une rencontre que les deux hommes appelaient de leur vœu et qui intervient alors que les tensions entre la Russie et l'administration Trump n'ont jamais été aussi importantes. La perspective chère à Donald Trump de vouloir mettre un terme au conflit en menaçant les partenaires commerciaux de la Russie de sanctions a certainement fait avancer les choses, mais attention, cela ne veut pas dire que Moscou est prêt à mettre un terme au conflit qu'il oppose à Kiev. Vladimir Poutine l'a répété, il veut une paix durable qui prenne en compte la défense des intérêts de la Russie et garantissent sa sécurité. Moscou veut redéfinir une architecture de sécurité en Europe qui dépasse le cadre du conflit ukrainien. Et pour y parvenir, la Russie doit d'abord se mettre d'accord avec les États-Unis au moment où plusieurs responsables européens refusent de parler au président russe. On connaît les conditions de Moscou, reconnaissance de l'annexion des régions occupées par la Russie, un retrait des troupes ukrainiennes de ces régions et la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est à n'en pas douter ce qui constituera le gros des discussions entre les deux hommes. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Si ce n'est pas un génocide, ça y ressemble beaucoup. Déclaration d'une haut responsable de la Commission européenne concernant la situation à Gaza. Dans une interview aux médias Politico, Teresa Ribera s'alarme d'une population ciblée, tuée et condamnée à mourir de faim dans l'enclave palestinienne. L'inquiétude des producteurs et des vendeurs de vin de part et d'autre de l'Atlantique face aux droits de douane américains entrés en vigueur aujourd'hui. 15% pour les Européens et la crainte en particulier d'un coup dur pour les vignerons français. Crainte partagée côté américain par les cavistes friand de bouteilles venues de l'Hexagone. Reportage avec un commerçant de Washington qui redoute une envolée des prix et la perte de ses clients. Sandrine Edouard-Andegue.
Elle la tête posée contre la vitrine, Bassam Al-Kawaji, patiente à l'entrée de sa cave à vin proprette et fournie du quartier huppé de Georgetown. J'adore ce quartier, j'adore mes clients. Ils nous soutiennent depuis 25 ans, pourvu que ça dure. C'est la première fois qu'il se dit inquiet pour l'avenir de son commerce. Avec les surtaxes douanières, ce sera dur pour tout le monde, les consommateurs, les importateurs, les distributeurs et les vendeurs. Il montre sa collection de vins français qui, il précise, marche très bien. C'est 40% de nos ventes. Les gens aiment le Bordeaux, les vins de Bourgogne. Si les droits de douane augmentent, les prix devront suivre. La bouteille de vin à $25 devrait coûter $35-40. C'est sûr, les gens en boiront moins. Ce que confirme un agent immobilier qui apprécie
Chablis. And then, of course, Bordeaux, especially Saint-Emilion.
Mais si les prix augmentent, je retournerai au vin californien par défaut. Pas question de payer plus cher pour les mêmes produits, ce n'est pas juste. Pour maintenir les prix, Bassam raconte avoir constitué des stocks de vin français avant l'entrée en vigueur des droits de douane, qui devraient selon lui tenir jusqu'au mois de décembre. Après, il avisera.
Un reportage signé Sandrine Etoa-Andegue. Pourquoi des chevaux ont-ils été mutilés et tués dans le nord de la Normandie? 11 équidés pris pour cible ces derniers mois dans le secteur du Havre. 3 sont morts. Un suspect a été placé en détention provisoire et la procureure de la République du Havre tenait une conférence de presse ce matin, Lila Lefebvre.
Le suspect d'une vingtaine d'années est connu des services de police pour des violences lorsqu'il était mineur, mais pas pour des faits similaires. Le jeune homme a été arrêté lundi soir et n'a pas opposé de résistance. En garde à vue, il nie les agressions, mais reconnaît avoir été présent sur 2 des lieux des 7 attaques retenues par le parquet. Il faut dire que les preuves sont accablantes, explique Soizic Guillaume, la procureure de la République du Havre.
Sur le lieu des derniers faits, du sang humain a été retrouvé. Une analyse ADN a donc été lancée en urgence et le mis en cause, qui était déjà connu au FNAEG, a pu être identifié. Dans son domicile et dans ses véhicules ont été retrouvés un cutter qui présentait des traces de sang séché, un monoculaire vision de nuit et des biscuits pour chevaux.
Une analyse psychiatrique a été réalisée pendant sa garde à vue et il en ressort une probable altération de son discernement, mais pas une abolition, précise la procureure de la République qui a demandé son placement en détention provisoire avant un procès. En septembre, ce que dénonce l'avocate du prévenu, Valérie Giard.
Cet expert, il a relevé un trouble du stress post-traumatique majeur et que ce trouble aurait engendré un trouble dissociatif de l'identité, donc les TDI.
L'avocate a déjà fait appel de son placement en détention provisoire et demande son hospitalisation.
Les précisions de Lila Lefebvre d'ici Normandie pour France Inter. Plus de 6 millions de clients de Bouygues affectés par une cyberattaque d'ampleur sur le groupe des télécoms, des comptes volés dans lesquels il y a des coordonnées bancaires. Une grave atteinte pour l'opérateur qui a porté plainte. Bonjour Victor Costa-Mounier.
Bonjour.
Les clients sont désormais exposés à des fraudes.
Ils ont reçu ou vont recevoir un mail ou un SMS pour les en informer, affirme Bouygues. C'est leur état civil, leurs coordonnées, des détails sur leurs contrats qui peuvent avoir été dérobés, des informations que les cybercriminels utilisent ensuite pour se faire passer pour d'autres, une banque ou une plateforme de streaming par exemple, pour ensuite demander aux victimes de communiquer leurs coordonnées bancaires. Attention donc aux mails et SMS suspects dans les prochains jours. Mais Bouygues avertit que ce sont aussi les IBAN des clients qui sont concernés par cette cyberattaque, ce qui pourrait mener les pirates à souscrire à des prélèvements frauduleux, un risque qui reste minime selon Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité.
Il faut qu'ils trouvent des sites ou des applications sur lesquelles la connaissance du client ne soit pas à un haut niveau, ce qui fait qu'ils vont pouvoir passer les barrières de vérification de l'identité du client et s'inscrire à sa place, ce qui, sur la plupart des sites efficaces, ne se produit pas.
Dans le doute, vous pouvez appeler votre banque. Vous avez normalement 13 mois pour vous opposer à un prélèvement. C'est la loi.
Vigilance de mise donc pour les clients Bouygues. Merci Victor Costa-Mounier. L'enseigne de prêt-à-porter Naf-Naf sauvée de la liquidation. Les magasins sont repris partiellement par le groupe Beaumanoir qui détient déjà plusieurs marques similaires et qui a proposé la reprise de la moitié des salariés de Naf-Naf et la conservation d'une dizaine de boutiques sur la centaine que compte l'enseigne. Il avait offert à la France, il y a un an, la première médaille d'or olympique de son histoire en surf. Le Polynésien Colly Vast est de retour sur la vague qu'il a sacré champion lors des JO de 2024, la mythique vague de Teahupo à Tahiti, où se déroule à partir d'aujourd'hui la plus grande compétition mondiale professionnelle de surf, le Tahiti Pro. La présence du Français qui ravit forcément de beaux souvenirs olympiques, Thomas Lavaux.
Il est de retour là où il a décroché l'or il y a tout juste un an. Pourtant, la participation de Colly Vast à la Tahiti Pro n'était pas garantie. Malgré son statut de premier champion olympique de l'histoire pour la France, le Tahitien a été invité à participer car il ne fait partie que de la deuxième division mondiale. Invitation logique, dit Jacques Lagincombe, président de la Fédération française de surf.
Pour moi, et je vois ça avec mon recul sur les Jeux olympiques, vous savez, à Teahupo, il y a la connaissance de la vague, le fait d'être un local, il y a l'engagement du surfeur, et puis il y a ce que les Tahitiens appellent le mana, qui est l'esprit du lieu. C'est un expert de cette vague. Je ne vois pas très bien comment on peut faire une compétition à Teahupo sans avoir Colly Vast.
Réputé pour la puissance de ses courants ou l'amplitude de ses tubes, Teahupo pourrait paraître encore plus impressionnante cette année, avec une houle qui s'annonce énorme, prédit Jacques Lagincombe.
Une houle qui va avoisiner les 10 pieds et qui va fonctionner tout le temps. C'est très très conséquent déjà. Les 3,50 m dans une vague bien creuse comme Teahupo, ça devient une vague dangereuse.
Colly Vast espère faire aussi bien qu'en 2022. Déjà invité, il avait atteint la finale. Chez les dames, Vain Fierro va tenter de conserver son titre remporté l'an dernier. L'autre tricolore s'est qualifié il y a quelques jours, Kélia Galina, 12 ans seulement.
Et à noter que la vague Teahupo est déjà en temps normal considérée comme la plus dangereuse du monde. Elle fascine aussi pour ça. Une vague qui a déjà fait des morts. Tout de suite, la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Et bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Plein soleil, sauf près de la Manche.
À l'approche d'une faible perturbation, l'ambiance reste effectivement très nuageuse cet après-midi près de la Manche et dans les Hauts-de-France. Ailleurs, le soleil brille très largement et les températures poursuivent leur hausse. Seule la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et Grand Est devraient rester sous les 30 degrés. Ailleurs, la chaleur s'accentue avec 30 degrés à Paris, Nantes ou Dijon, 34 à Lyon, Angoulême ou Avignon, 36 à 37 dans le sud-ouest. En Méditerranée, le vent d'origine maritime s'est renforcé. Il est bien établi cet après-midi, il tempère les littoraux. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle sur le front de l'incendie de l'Aude. Et ce marin devrait ramener des grisailles ce soir dans le golfe du Lion. Demain, début d'épisode caniculaire, déjà 5 départements pour l'instant en orange, dans le Lyonnais et le Midi Toulousain. Les 35 degrés ou plus seront généralisés à une grande moitié sud et les minimales seront très élevées.
Merci Olivier Proust de Météo France.